Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver ensemble pour partager, pour se former mutuellement, parce que même celui qui donne, celui qui enseigne, celui qui fait une prédication, il se forme aussi, parce que d'abord il doit préparer en amont. Et en même temps, c'est écrit dans un adage qui a été dit par les sages d'Israël, « J'ai appris énormément de mes professeurs, beaucoup de mes amis, mais encore plus de mes élèves. » Alors vous n'êtes pas mes élèves bien évidemment, mais le fait de donner, on apprend énormément. Et c'est pour ça que je prie véritablement le Père dans le nom de Jésus, par Jésus véritablement, que chaque parent puisse être formé véritablement au niveau de la théologie, au niveau de la philosophie, au niveau du magistère de l'Église, au niveau de la Bible, pour qu'il puisse transmettre à la maison. D'abord, cela apportera beaucoup plus de choses pour lui-même, aussi pour ses propres enfants, bien évidemment encore plus dans notre société dans laquelle on vit aujourd'hui. Émission spéciale ou un partage spécial, bien que tout est spécial, c'est nous allons parler un petit peu de la bioéthique par rapport à ce que dit, qu'est-ce que dit la Torah par rapport à la bioéthique. Est-ce que dans la Torah on parle de la bioéthique? Est-ce que pour Dieu la bioéthique, est-ce que ça l'intéresse? Ou bien simplement Dieu, il est uniquement cloisonné, que ça soit dans les églises, dans l'adoration, dans la messe ou dans les temples? Ou bien est-ce que Dieu s'intéresse aussi à notre humanité au niveau politique, au niveau économique et bien sûr au niveau de la bioéthique? Alors il faut savoir une chose, que la bioéthique est une discipline bien connue dans le judaïsme, au sein du judaïsme. Dans le Talmud, c'est-à-dire dans la tradition orale, c'est bien connu, on va en parler. Donc c'est intéressant de voir que déjà dans la tradition orale, c'est-à-dire à l'époque de Jésus, c'est ça le Talmud. Le Talmud, même s'il a été écrit plus tard, c'est l'époque de Jésus. Et c'est même déjà avant même un petit peu même l'époque de Jésus. D'accord? On est à l'époque, ce qu'on appelle du Talmud, même si c'est précisément le mot. L'écriture, les enseignements n'ont pas été mis sur papier. Donc dans le Talmud, c'est bien connu, donc il faudra bien comprendre comment ça se fait que dans le Talmud, c'est bien connu, parce qu'il n'y avait pas encore la GPA ou la PMA, et on en parle aussi dans la Torah. Alors c'est intéressant de voir où est-ce qu'on en parle aussi dans la Torah, bien évidemment, et on en parle aussi dans les évangiles. Alors c'est intéressant de voir aussi où est-ce qu'on en parle dans les évangiles, parce qu'à l'époque des évangiles, il n'y avait pas encore ni la PMA, la GPA. D'abord, il faut savoir une chose. Le judaïsme, au départ, n'est pas une religion telle qu'on veut nous le faire croire. D'accord? C'est-à-dire que le judaïsme ne s'occupe pas uniquement de la partie culturelle, spirituelle, et que la partie de la société humaine, la cité, est gérée uniquement que par l'intelligence humaine. Et donc, ça ne concerne pas Dieu. Ça, c'est pas le judaïsme. Dieu a un droit de regard sur la politique, sur l'économie, donc sur l'humain, et donc sur la, ce qu'on appelle aujourd'hui donc la bioéthique. Il n'y a pas de dichotomie normalement au sein du judaïsme. Ça, c'est extrêmement très important de le dire. C'est pour ça que même lorsque Jésus dira « il faut rendre à César ce qui appartient à César », il ne fait pas un mur de Berlin entre César et le cultuel et la religion, et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Parce qu'il dira lui-même à César « tu n'as aucune autorité sur moi, toute autorité est née du Père ». Donc même les gouvernants, même la gouvernance d'une humanité, elle doit être sous l'autorité de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque Dieu va créer l'homme, il le crée en étant, si vous voulez, son vicaire sur terre. Mais il ne fait pas du n'importe quoi. L'homme représente Dieu sur terre, pas uniquement sur le plan religieux ou spirituel, sur le plan de bien gérer la terre et donc de bien gérer aussi les êtres humains. Donc, il n'existe pas de dichotomie entre le droit, l'éthique, le spirituel au sein du judaïsme. Ça, c'est très important. Je le répète, il n'existe pas de dichotomie entre le droit et l'éthique et le spirituel au sein du judaïsme. Le droit hébraïque est fondé sur l'éthique, le spirituel, qui est enseigné par la Torah écrite et la Torah orale. Après, on peut ne pas être d'accord. Mais je répète, c'est très important. Le droit hébraïque est fondé sur l'éthique et le spirituel. Donc, le spirituel n'est pas plaqué uniquement dans une synagogue. Le droit hébraïque est fondé sur l'éthique et le spirituel, c'est enseigné par la Torah écrite et la Torah orale. Donc l'homme n'est pas le propriétaire de sa propre vie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le suicide au sein du judaïsme est interdit. La société, c'est elle qui doit s'adapter à la Torah et c'est pas l'inverse. C'est pas à la Torah de s'adapter à la société. On doit bien sûr voir que la société, elle change, mais c'est pas à la Torah de s'adapter à la société. C'est pas à Jésus de s'adapter à la Samaritaine. C'est à Jésus d'avoir les propos et d'avoir la façon de parler, d'aller rejoindre les gens en fonction de ce qu'ils sont pour les ramener vers lui, pour les ramener vers Dieu. Donc ce n'est pas à la Torah à la loi, à la Torah de Moïse, à la parole de Dieu, de s'adapter à la société. C'est à la société, donc aux êtres humains, de s'adapter à la Torah. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, il y a la valeur, bien, des valeurs bien sûr de sauvegarder la vie, le droit à la vie, l'identité véritablement de l'espèce humaine et de la relation humaine donc en général. Ce qui est donc très important dans le judaïsme, c'est que c'est, encore une fois, c'est la Torah qui guide, qui est le principe de la relation dans une société, dans le monde. Relation économique, relation politique, relation en temps de guerre, et bien sûr relation en tant que de ce dont nous allons parler maintenant au niveau de la bioéthique. Après, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de dichotomie. Avant de rentrer véritablement dans ce sujet-là de l'interprétation du regard juif, si vous voulez, talmudique, si vous voulez, et même donc des évangiles, préalablement, laissez-moi dire d'abord une remarque importante. Il faut savoir que le comité consultatif national d'éthique définit l'embryon en le qualifiant, donc je le cite, de vie humaine potentielle. De vie humaine potentielle. Donc, d'après cette définition, la vie humaine est présente dès le stade embryonnaire. Alors, de deux choses l'une, soit l'embryon est un objet et le terme humain est impropre, soit il est qualifié de tel et le terme humain prend donc toute sa dimension. Maintenant, quand au statut qu'on accorde à l'embryon, les droits de l'homme, les droits les plus élémentaires, tels que celui du droit à la vie, doivent être accordés, puisque c'est un humain, ou c'est en tout cas, il va être un humain. Cependant, la pratique, surtout depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, il y a eu un glissement de la loi. L'embryon est devenu objet d'expérimentation dans le cadre de la recherche médicale. Ce qui fait que la définition de l'embryon, donc, était proposée par le Comité consultatif national d'éthique, n'a plus de sens. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important de réécouter de cette introduction-là est très importante. Pour la tradition juive, donc pour le regard de Jésus même en tant que juif dans sa tête, il y a une distinction entre un embryon et un fœtus. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, je vous dis les choses telles qu'elles sont. L'embryon prend le statut de fœtus après un délai de 40 jours. Je rentrerai pas dans les détails pourquoi un délai de 40 jours. Avant ce délai, l'embryon est considéré encore comme un simple liquide. Néanmoins, pratiquement la totalité des rabbins considèrent que puisqu'il y a potentialité de vie, l'embryon ne permet pas, on ne peut pas permettre l'interruption de la grossesse. C'est la raison pour laquelle que la sauvegarde de la vie de l'embryon du fœtus prime sur toutes les autres lois. Et donc, premièrement, il y a donc une opposition à tout avortement. C'est la raison pour laquelle que la plupart aussi de tous les rabbins, puisque le fœtus, l'embryon, est considéré comme un être humain, même avant 40 jours, en tout cas un futur être humain, tous les rabbins refusent de faire des recherches expérimentales, donc ils sont contre la loi qu'on vient de citer. On ne fait pas des recherches expérimentales sur les embryons. Car Dieu, et là vous voyez on se base sur la Torah, car Dieu a donné à l'homme, vous voyez que la réflexion rabbinique se base sur la Torah, elle n'est pas simplement sur la morale, il n'y a pas une dichotomie, la Torah n'est pas que spirituelle. Posons-nous la question, nous, est-ce que notre problème à nous, est-ce que c'est de ne pas avoir pris uniquement les évangiles que pour le royaume des cieux, que pour le spirituel? Alors on va se baser sur la Torah. Pourquoi les rabbins disent qu'on ne peut pas faire une recherche expérimentale sur les embryons? Parce que Dieu a donné à l'homme, au moment de la Genèse, au moment de la création du monde, de gérer correctement la terre. Multipliez-vous, fructiez-vous. Donc on pourrait dire de compléter la création. L'homme devient comme le vicaire sur terre de Dieu, le lieutenant de Dieu, l'associé de Dieu. Mais pas de détruire la terre. Pas de détruire la création du monde. Donc pas de détruire la nature, mais pas de détruire non plus l'être humain. Et pas de faire n'importe quoi avec l'être humain. Ça, c'est une première chose qui est extrêmement importante de bien méditer les choses. posons-nous une autre question. Comment se fait-il que les rabbins puissent répondre à des questions tirant des enseignements au sein du Talmud, donc de la tradition orale juive, ou même des fois de la Bible, de la Torah, et quand, encore une fois, à leur époque, on parlait pas de GPA, on n'a pas suscité ces sujets-là. Ces sujets-là n'ont pas été traités directement. Alors, on va essayer de comprendre cela en ouvrant d'abord une grande parenthèse. Nous devons d'abord essayer de comprendre et de savoir que, à partir de quand a commencé la procréation assistée, la procréation médicalement assistée. Ceci date à partir du 20e siècle, si je me trompe pas, dans mes recherches. Ceci date du 20e siècle, c'est-à-dire à partir du 1900. À partir de 1900, on va commencer à expérimenter et on commence à comprendre qu'on peut prélever du sperme et de l'insérer dans le corps de la femme. Aujourd'hui, on appelle ça une insémination in vivo. Plus tard, la science va ce qu'on appelle évoluer et on va faire des inséminations in vitro, c'est-à-dire dans des éprouvettes. Et donc plus directement dans le corps de la personne. Donc, dans ce cas-là, dans l'éprouvette, on fait rencontrer à la fois l'ovule, mettons, d'une femme, et les spermatozoïdes, de l'homme, pour qu'il puisse avoir après donc un embryon, et que cet embryon sera transporté après dans le ventre, dans le corps de la femme. Donc à peu près, c'est à partir du 20e siècle, à partir de 1900, qu'il y a des personnes qui pensent qui travaillent sur cela. Préalablement, avant, on n'en parlait pas. C'était même impossible de parler d'une insémination artificielle. Même dans les civilisations antérieures, c'est-à-dire dans l'Antiquité, même dans la médecine grecque ou romaine, d'après mes recherches, d'après ce que j'ai pu lire, étudier, rechercher, à moins que je me trompe, on ne trouve aucune trace de possibilité de faire ce qu'on appelle une insémination artificielle. Pourtant, dans le Talmud, dans la tradition orale, on en parle. Le sujet de filiation est très présent d'abord déjà au sein de la Bible. Et on en parlera plusieurs fois. Et c'est pour ça que vous avez exemple dans le livre de l'Exode ou même dans le livre de la Genèse, les noms avec les filiations, la filiation, et même dans les évangiles, par rapport à la généalogie de Jésus. La filiation est extrêmement importante. Il y a un traité dans le Talmud qui s'appelle comme ça le nom, le traité Chagiga, c'est son nom, qui va se référer à ce qui est écrit dans la Torah pour nous parler de cela, pour nous parler ce qu'on va appeler aujourd'hui comme une insémination artificielle. Alors, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? C'est écrit dans la Torah, dans le livre du Lévitique. On voit que le grand prêtre a des obligations plus importantes que les prêtres. Le grand prêtre a des obligations plus importantes que les prêtres. Le mot prêtre en hébreu se dit Kohen et le grand prêtre se dit Kohen Gadol. Exemple, le grand prêtre concernant le mariage va avoir une contrainte que les autres qui ne sont simplement que des prêtres ne l'auront pas. Le grand prêtre a l'obligation d'épouser uniquement une femme vierge. C'est dans le livre du Lévitique, chapitre 21. Voilà, quant au grand prêtre supérieur à ses frères sur la tête, duquel aura coulé tout l'huile qu'on a investi, là-bas, à partir dans le chapitre 21, extrêmement important, dans le verset 13, vous pouvez aller voir, c'est écrit, il devra épouser une femme qui soit vierge. Donc, pour le grand prêtre, on a le grand prêtre a l'obligation d'épouser une femme vierge. Les rabbins qui poussent leurs questions pourraient dire à l'absurde des fois. C'est ce qu'on dit, d'accord ? Et surtout à l'époque. Eh bien, il va poser une question qu'on pourrait dire a priori à l'absurde en leur temps, mais dans notre temps à nous, c'est plus absurde. Les rabbins vont se poser une question. Qu'est-ce qui se passe si une femme est enceinte et qu'elle est toujours vierge ? Je ne vais pas vous renvoyer à Marie, hein, d'accord ? Parce que maintenant, on ne fait pas par rapport à Marie, mais c'est intéressant. Les rabbins, dans le Talmud Hagiga, la page 15, se posent la question si une femme tombe enceinte et qu'elle est restée vierge. Donc, si déjà les rabbins se posent la question, c'est que c'était possible, ils ont envisagé, cette possibilité qu'une femme puisse tomber enceinte et rester vierge. Encore une fois, je ne parle pas par rapport à Marie, hein, mais c'est intéressant. Alors les rabbins vont donner leur avis. Puisque, qu'est-ce qui se passe par rapport au grand prêtre ? C'est ça la question. Est-ce que le grand prêtre peut-il se marier avec cette femme ou pas, puisqu'elle est vierge, et que l'interdiction était uniquement sur la femme ? Est-ce qu'elle soit vierge ou pas ? Mais elle est enceinte, donc est-ce que le grand prêtre peut se marier avec elle ? Le Talmud, Hagiga, toujours dans la page 15, va faire intervenir deux grands sommités de l'époque, où ils se bataillaient dans les disputations. Un qui s'appelait Rav, c'était son nom. Un qui s'appelait Samuel, Shmuel, c'était son autre nom. Très bien. Et puis bien sûr, après, il y avait les autres rabbins qui écoutaient. Et on prenait l'avis ou de Shmuel, donc de Samuel, ou de Rav. Shmuel va dire que c'est possible qu'une femme puisse tomber enceinte sans pour autant qu'elle soit déflorée, donc sans pour autant, donc ça veut dire qu'elle puisse rester vierge. Je rentrerai pas dans les détails. Quelle est l'argumentation ou l'argumentaire de Shmuel? D'accord? Comme lui, il explique, il dit oui, c'est très possible. Il y a aucun, c'est très possible qu'une femme puisse tomber enceinte et rester vierge. Rav, son compatriote, n'est pas d'accord. Les autres rabbins disent, mais ça, c'est une chose très rare. La façon comment Samuel, Shmuel nous présente la chose qu'une femme a pu tomber enceinte et rester vierge. Donc, il faut trouver un autre cas. Un autre cas où ça serait plus dans les lois naturelles que dans le surnaturel. Et donc le Talmud va imaginer un cas incroyable, aujourd'hui qu'on va dire c'est débile, ce cas-là. Comment est-ce qu'une femme peut-elle tomber enceinte, d'accord, sans pour autant, tout en pour autant restant vierge? Ils disent comme ça, une femme va dans la piscine, et dans la piscine, il y aurait un homme qui aurait émis un sperme et que le sperme est rentré donc à l'intérieur de l'utérus de la femme. Voilà ce que les rabbins vont envisager. Vous pourrez dire, c'est débile. Oui, mais c'est intéressant par rapport à ce que nous étudions parce que c'est sur ça que les rabbins vont se baser aujourd'hui, véritablement, par rapport à tout ce qui est la biotique, par rapport à tout ce qui est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, elle tombe enceinte et la dame, elle reste vierge. Et donc, encore une fois, à partir de cela, c'est toute l'assimilation de tout ce qu'on appelle assimilation artificielle. Est-ce que c'est valable ou pas valable? Au XIIIe siècle, il y a un rabbin français qui s'appelait Rabbeinu Peretz. Il disait qu'il faut que la femme qui est mariée évite de se servir des mêmes draps là où aurait pu dormir une autre personne que son mari. Pour quelle raison? Parce que peut-être que la personne qui a dormi dans les draps a laissé du sperme et que la femme risque de tomber enceinte. Quel est le problème en vérité dans les deux cas? Le problème, et c'est pour les rabbins, c'est que l'enfant qui va naître de cette femme, tout le monde va penser que ça vient de son mari. Mais qu'en vérité, c'est pas de son mari. En vérité, c'est du sperme qui est resté dans les draps ou c'est du sperme qui est dans la piscine. Exemple. Et donc là, on est en train de rentrer dans une qui va donner naissance à une union incestueuse. Pourquoi à une union incestueuse? Quelle est la peur? C'est que tout d'un coup, cet enfant-là, un garçon ou fille, peut très bien se marier avec une jeune fille ou un jeune garçon qui ont en fait le même père. Et donc, en vérité, ils sont de la même famille. Voilà ce que disait le rabbin au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Et cette opinion va être très intéressante. Pourquoi? Parce que la question va être, est-ce qu'il y a filiation en dehors du mariage ou pas? Est-ce qu'il y a filiation en dehors d'une relation sexuelle papa-maman ou pas dans le code de la loi juive? Voilà la question qui va donc se poser concrètement. Et donc on aurait pu penser, du fait qu'il n'y a pas eu relation sexuelle directe, eh ben il n'y a pas de filiation. Ça casse la filiation. Eh ben on voit que non. Puisqu'il risque d'avoir un problème d'inceste. Il faut savoir une chose, que cette opinion va être entérinée par tous les décisionnaires juifs. Par tous les décisionnaires juifs. C'est sur cette base-là aussi que tous les décisionnaires vont s'opposer à tout ce qui est insémination, que ça soit in vivo ou que ça soit in vitro. Parce que là, ça va causer d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'à partir de ces cas-là, ils vont réfléchir, ils vont élargir au problème de la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le problème en France, c'est que ce site autorisé avec un donneur anonyme. Et puisque le donneur est anonyme, on retombe dans un risque d'inceste. Or, pour la tradition juive, pour la loi juive, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que les rabbins se fondent sur ce qui est écrit formellement, dans un texte du Talmud et dans un texte, bien évidemment, aussi de la Bible, de la Torah. Dans un texte du Talmud, on nous dit quelque chose. Une femme, une personne, une veuve ou une divorcée qui veut se remarier doit attendre 3 mois. Ça, c'est dans la Guémara Yevamot. Même problème, hein. Elle doit attendre 3 mois. Pour quelle raison elle doit attendre 3 mois? Pour quelle raison? Le Talmud va donner la raison pourquoi est-ce qu'elle doit attendre 3 mois. Parce que on veut savoir si elle est enceinte ou pas enceinte de son premier mari ou pas. Tout le côté de la filiation. Pourquoi? Parce que le problème, c'est de savoir est-ce que l'enfant va connaître son père ou va connaître son vrai père. Est-ce que l'enfant va connaître, il va croire que c'est son père et qu'en vérité ce ne l'est pas, ou bien est-ce qu'il connaîtra jamais son vrai père? Donc déjà dans le Talmud, on parle de cela. Et c'est pour ça qu'on demande à la femme d'attendre 3 mois avant de se remarier, parce que là on verra véritablement qu'elle est enceinte. Donc, imaginez-vous qu'une femme se remarie au bout, avant, et qu'elle accouche, exemple, au bout de 7 mois, ou même après. On va pas savoir qui c'est le mari, véritablement. Le vrai mari, donc le vrai père. Et donc, il y a un problème. Ceci va se baser, les sages du Talmud vont se baser sur ce qui est écrit dans la Genèse. C'est écrit dans la Genèse 17,7. Lorsque Dieu dit à Abraham, je serai pour toi un Dieu, ainsi qu'à des descendants après toi. Et les rabbins, vous savez comment est-ce qu'ils abordent aussi la parole de Dieu, c'est que chaque mot est important. Donc dans ce verset, c'est écrit ça, pour établir cette alliance entre moi et entre toi, dans ta postérité, je ai une postérité perpétuelle pour toi, un Dieu, comme pour ta postérité après toi. 17,7. comme pour ta postérité après toi. Et les rabbins vont dire ici qu'il y a un pléonasme. Si c'est pour ta postérité, c'est toujours après toi. Donc pourquoi va marquer le mot après toi? Le mot après toi est en superflu, est en plus. Et lorsqu'il y a un mot en trop dans la Torah, les rabbins disent qu'il y a un message que la Torah ici veut donner. Lorsque c'est écrit dans ta postérité, mais après toi, ça veut dire que pour bénéficier véritablement de l'alliance avec Dieu, donc de la présence de Dieu, il faut que ta postérité qui soit après toi soit en filiation avec toi pour avoir cette alliance divine. Le Rashi, qui est un commentaire du Moyen-Âge, dira clairement que pour que Dieu puisse résider sur le peuple d'Israël, il faut avoir la certitude de la généalogie. Et là, on voit bien maintenant les discussions qu'il y avait au temps de Jésus. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, vous êtes les enfants du démon. Toute la filiation qui était extrêmement importante, spirituellement, pas uniquement au niveau éthique ou moral, mais au niveau spirituel. Et Jésus rentre dans cette idée. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham parce que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Vous êtes les enfants du démon. À quelle généalogie on appartient? À quelle filiation on appartient? Notre père est Abraham. Les Juifs se reconnaissent entre notre père et Abraham. L'importance de reconnaître la filiation au sein même de la parole de Dieu. Pourquoi c'est extrêmement important de reconnaître la filiation au sein même de la parole de Dieu? Parce que c'est un projet de Dieu, véritablement. Que l'enfant puisse naître d'un père et d'une mère. C'est dans le projet véritablement de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus répondra, non, vous êtes les fils du démon. Votre filiation, c'est par rapport au démon. D'où vient notre filiation? Donc on voit que ce n'est pas uniquement un besoin physique ou psychologique qui est certes très important, c'est aussi un besoin spirituel. De ne pas ignorer sa filiation. Donc un enfant qui n'arrive pas à savoir qui c'est son père, c'est dramatique pour lui sur le plan psychologique, sur le plan physique, comme sur le plan spirituel. Donc c'est pour ça que les rabbins vont interdire de mettre au monde des enfants dont la filiation n'est pas connue. Ça c'est extrêmement important, première chose. On s'aperçoit uniquement aussi que les rabbins vont dire que le problème n'est pas uniquement l'enfant en lui-même. Le problème n'est pas uniquement l'enfant en lui-même. Le problème c'est pour protéger aussi la société. Parce qu'on ne fait pas un enfant que pour soi, on fait un enfant aussi pour le projet de Dieu, le projet de la famille, la cellule familiale, la construction d'une société. Et les rabbins disent, à ce moment-là, on détruit totalement le projet de Dieu, on détruit totalement la famille, et donc on détruit totalement la société, et donc en vérité, c'est une attaque contre Dieu. D'ailleurs, on le voit avec le serpent qui l'attaque déjà Adam et Ève. On le voit aussi avec Pharaon dans les livres de l'Exode, où il demande de tuer, dans le premier chapitre, où il demande de tuer tous les premiers garçons. Donc on s'est toujours attaqué à la famille. On s'est toujours attaqué à la procréation, j'allais dire naturelle, que Dieu a mis dans l'ordre de la création, pour s'attaquer directement à Dieu. En fait, pour s'attaquer directement au projet de Dieu. D'ailleurs, je crois que c'est écrit dans l'Apocalypse qu'on a essayé d'attaquer Dieu et puis hop, le démon est descendu en bas pour attaquer l'assemblée. Donc ça a toujours existé. Donc c'est pas uniquement pour protéger l'enfant, bien évidemment, mais l'enfant, il n'est pas tout seul. L'enfant fait partie d'un projet divin, d'un projet universel, d'un projet de société. Et donc c'est de protéger aussi la société dans laquelle on se trouve et de construire une société d'abord qui est une construction au niveau de la famille. Et c'est pour ça que c'est d'abord, en fait, ce sont les familles à travers cela qui sont attaquées véritablement. Ça, c'est très important. Ce sont les familles qui sont attaquées. D'où l'importance, encore une fois, de la formation des parents pour qu'ils transmettent à la maison. Revenons maintenant véritablement où c'est la question de la PMA. Il y a donc ces deux types, d'accord, d'argumentation ou d'argumentaire qu'on peut donner. D'accord? Par rapport aux inséminations, que ça soit in vino ou in vitro, lorsqu'on ignore le donateur. D'ailleurs, même une femme dans la loi juive qui arrive à un certain âge, qui n'a pas pu se marier, qui demande d'avoir un enfant, on ne lui donnera pas d'enfant. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, le sperme peut marcher pour 4 personnes que le papa va donner, que l'homme va donner. Et en plus, le judaïsme s'oppose totalement à cela parce que l'enfant doit naître d'un papa et d'une maman tel que c'est écrit dans la Bible. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, autre problème, si le donateur, il est connu, les rabbins aussi ont travaillé sur cela. Mais préalablement, si le donateur est connu, mais préalablement, je voudrais vous dire une seule autorisation qui est autorisée au sein du judaïsme quand c'est une assimilation, ce qu'on appelle homologue. C'est-à-dire, il y a un problème dans le couple pour X raisons. Donc, le vrai papa et la vraie maman, d'accord, les médecins vont faire le maximum pour pouvoir permettre à la femme de pouvoir enfanter. Mais on sait véritablement qui est le vrai papa et la vraie maman. Ça reste au sein du couple. Ça va pas s'élargir. Maintenant, on connaît le vrai donateur. Est-ce qu'il y aurait un problème ou pas? Parce que jusqu'à maintenant, on a dit que voilà, on connaît pas le donateur. Or là, il y a un autre problème que les rabbins vont faire entrer. Bien sûr qu'il y a un autre problème. Même si on connaît le donateur, c'est interdit. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a trois personnes. Trois personnages. Il y a le mari, il y a la femme et il y a le donateur. Or, l'épouse doit rester pour la loi juive dans la cellule familiale. C'est dans le couple qu'on crée les enfants pour créer la société, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Or là, qu'est-ce qui se passe? On fait intervenir donc un sperme tiers, et donc il y a un problème pour la loi juive qu'on rentrerait dans une notion, d'accord? J'ai pas dit quoi, à au pied de la lettre, mais là, il faut prendre l'esprit de la lettre. Vous voyez que toujours les rabbins ont pris aussi l'esprit de la lettre, dans une notion de adultère. C'est pas un adultère véritablement, mais on rentre dans une notion de adultère parce que l'enfant doit naître véritablement de la relation de l'homme et de la femme. Et ça, donc, c'est interdit. C'est interdit parce que ça atteint à la pureté de la vie conjugale, à la cellule familiale. Ça, c'est extrêmement important. Et comme je vous dis, c'est la cellule familiale qui est attaquée à travers cela. Il y a un rabbin en Espagne, il y a très longtemps, au Moyen-Âge, qui s'appelait Aaron Alivi, qui va écrire un livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch, le livre de l'éducation, où il explique la signification des mitzvot, la signification des commandements. Et lorsqu'il arrive au commandement « Tu ne commettras pas l'adultère », tu ne commettras pas l'adultère, qu'est-ce qu'il dira? Il dira comme ça, par rapport à l'adultère. Hein. Il y a un autre commandement qui nous dit que lorsque Dieu a créé les fruits, c'est selon leur espèce, les arbres selon leur espèce. Donc, lui, il va dire, ça se rapproche au commandement de l'adultère, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire de mélange. On n'a pas le droit de faire de mélange d'espèces au niveau des fruits. Si déjà on n'a pas le droit de faire des mélanges d'espèces au niveau des fruits, à plus de forte raison qu'on n'a pas le droit de faire de mélanges d'espèces, donc de sperme, au niveau des hommes, qui font partie de la nature. Dieu a créé l'arbre selon ses fruits, son fruit. Et donc, pas de mélange de fruits pour tirer un autre fruit. C'est pour ça que Dieu exige que la descendance humaine soit connue et vient de la paternité du vrai père et de la vraie mère, et donc qu'il n'y ait pas de mélange. Donc même quand on sait que le donateur il est connu, c'est interdit par la loi juive, parce que ça tue la pureté, la cellule familiale, ça tue la société. Et en fait, on crée une société sans véritablement la présence de Dieu, sans la volonté de Dieu. En fait, c'est un combat contre Dieu. C'est pas un combat contre les lois naturelles, c'est pas un combat uniquement contre l'enfant. L'enfant, il est pas né de lui-même, parce que si on me dit c'est un combat contre l'enfant, on va avoir des gens qui s'opposent à nous en disant « mais non, regardez, c'est bien aussi pour l'enfant ». Nous, nous devons nous positionner en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, d'accord? C'est pas simplement s'enfermer dans les églises, c'est un combat contre Dieu, tout simplement, contre le projet de Dieu. Dieu exige que la descendance humaine soit connue et vient de la paternité de papa et de maman sans faire aucun mélange. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé des dons des spermes. Qu'est-ce qu'il en est pour la femme, pour le don des ovules? On doit aussi en parler. C'est aussi extrêmement aussi important, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux femmes? C'est exactement la même chose par rapport aux femmes aussi. C'est interdit. Le même processus qu'on a dit par rapport aux hommes, c'est exactement la même chose par rapport aussi aux femmes. Donc, ce qui est important à retenir, mais je vais approfondir même par rapport aux femmes, parce qu'en plus, la judaïté vient de la mère dans le peuple juif. C'est que, pour faire toute une synthèse de ce qu'on vient de dire, c'est que le problème pour le judaïsme, ce qui est posé par rapport à la bioéthique d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de détruire, on va contre le projet de Dieu. Dieu veut que ça soit un homme, une femme. Et ce n'est pas simplement l'intérêt de l'enfant. C'est pas l'enfant pour l'enfant. C'est ça ce que je veux dire, c'est très important. L'enfant va naître dans un projet de Dieu. S'il y a un accouplement entre l'homme et la femme, c'est parce que Dieu le veut, parce que Dieu le demande. Donc c'est pas l'enfant pour l'enfant, c'est que l'enfant s'insère dans un projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est au sein de la cellule familiale. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus est né dans une cellule familiale. C'est pour ça qu'on nous parle énormément, encore une fois, de la famille, des familles au sein du peuple hébreu. Et même quand Jacob est descendu en Égypte, on nous donne les noms des familles de chacun. Nous, on croit que c'est rébarbatif. Non, parce que la filiation est extrêmement importante. La filiation de papa et la filiation de maman. Ça rentre dans le projet divin. Donc, si on procrée un enfant qui n'est pas dans l'ordre divin, on va contre Dieu. On va pas d'abord et uniquement contre l'enfant. On va contre Dieu. Parce que Dieu n'est pas simplement mis dans un coin prière. Dieu n'est pas mis uniquement, si on est catholique, dans l'Eucharistie ou dans la messe, si on est évangélique, que dans le culte. Dieu a un droit de regard sur l'humanité. Et on voit bien qu'à partir du moment où on retire la présence de Dieu au niveau éthique, au niveau moral, au niveau économique, au niveau politique, on va au casse-pipe. Ça, c'est évident. Revenons par rapport à la femme. Le don des ovules, c'est absolument exactement la même chose, interdit. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est même encore plus grave parce que pour le judaïsme, la personne est juive par la mère. Par la mère, à partir du moment où il y a eu aussi une relation avec le papa. Ça, c'est extrêmement important. Pas par une tierce personne. Donc, que ça soit un donateur ou que ça soit une donneuse, d'après la loi juive, on rentre dans un autre cas en plus. Qui n'a rien à voir, qui est aussi réfléchi par les rabbins. Après, on peut être d'accord et pas d'accord. Les rabbins vont dire à partir du moment où la femme va donner donc une ovule, où l'homme va donner donc des spermes, donc un donateur ou une donneuse, on va rentrer dans un autre cadre juridique qui est pour la loi juive. Après, encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Attention, hein. On va rentrer dans un autre cadre juridique qui est le cadre d'une adoption. C'est comme on rentre véritablement dans le cadre d'une adoption. C'est comme si on est en train d'adopter un enfant qui n'est pas celui du père. Si le père qui a des problèmes, ou qui c'est pas celui qui est de la mère, si la mère a des problèmes. Donc on est en train de rentrer dans un autre cadre juridique pour la loi juive, c'est le cadre de l'adoption. Donc il y a toutes des lois aussi au sein du judaïsme basées sur la Torah par rapport à comment est-ce qu'on doit adopter un enfant ou pas, de quelle manière on adopte l'enfant ou pas, parce que l'enfant ne sera pas réellement celui de sa mère, et ou bien l'enfant ne sera pas réellement celui de son père, et donc on rentre encore dans une autre complexité, une autre problématique au niveau aussi de la loi juive. Donc, ce qu'il faut, en tout cas, retenir, j'essaie de faire court parce que voilà, on pourrait plus étayer, c'est que bien évidemment, les Juifs sont contre tout ce qui est PMA, GPA, c'est évident, parce que ça va pas contre la loi naturelle, parce que ça va contre la loi de Dieu, parce que c'est Dieu qui est au centre. C'est pas uniquement l'enfant, c'est pas uniquement l'éthique ou la loi naturelle. Je pense que tant que l'Église ne se positionnera pas, et là vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, dans ce qu'elle est réellement des représentants de Dieu, mais pas uniquement pour le cultuel, mais aussi pour tout ce qui touche l'économie, la politique, l'éthique, eh ben, on ne sera pas écouté dans ce qu'on devrait faire passer comme message. Ça veut pas dire qu'on doit nous suivre. De toute façon, on voit bien, le cardinal de Paris a dit tout d'un coup, ah oui, les évêques n'ont pas été écoutés. Mais qu'est-ce qu'on croyait, que les évêques allaient être écoutés de toute façon? Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est que les gens qui font ces lois-là, les gens qui pensent comme ça, eux, ils se représentent tels qu'ils sont, à visage ouvert, et nous, on ne se représente pas à visage ouvert véritablement. C'est-à-dire, ah oui, on met Dieu dans le côté simplement de l'Église ou du culte, parce qu'il faut faire la séparation de l'Église et l'État. Mais ça n'a rien à voir, la séparation de l'Église et l'État, là-dedans. Ça n'a rien à voir, la séparation de l'Église et l'État. Bien sûr qu'il faut que l'État soit géré par des hommes intelligents, mais eux-mêmes, ils doivent être aussi empreints d'autorité de Dieu. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et l'Église, je pense, doit affirmer cela. Donc, c'est évident que pour la GPA et la PMA, c'est interdit. La seule chose, encore une fois, qui est autorisée au sein du judaïsme, d'accord, et en plus pour des cas bien spécifiques, d'accord, c'est à l'intérieur du couple. Si la maman, exemple, elle a un problème, là, le couple peut aller voir le médecin et le médecin peut essayer de mettre tout en œuvre pour essayer d'apporter un enfant à la maman, mais ça restera dans la cellule familiale. Il n'y aura pas un donateur extérieur. Il n'y aura pas non plus une donatrice extérieure. C'est interdit d'après la loi juive. Voilà ce que je peux dire, tout ce qui touche la bioéthique. C'est très résumé, c'est très concis, peut-être voilà, j'aurais pu peut-être plus étayer. En tout cas, le message ici qu'on nous renvoie, nous, et que j'arrête pas de dire un peu partout, ça c'est extrêmement important, c'est que les parents doivent se former. Encore une fois, on doit former les parents pour que les parents deviennent des véritables catéchistes à la maison, qui dialoguent avec leurs propres enfants, qui forment l'intelligence de leurs propres enfants, et ça l'État ou les lois que on veut nous faire avaler, eh ben, nous empêche pas de créer des vrais catéchistes. Et ça, c'est le travail de l'intérieur de l'Église. Donc, que le cardinal de Paris dit, on nous a pas entendu. On nous a pas entendu. Très bien, on n'a pas suivi. Mais moi, ce que je dis, c'est très simple, que déjà les évêques arrivent à s'entendre eux-mêmes sur un vrai projet au niveau de l'éducation des parents pour les propres enfants chrétiens, que déjà on puisse sortir avec ça, qu'on forme de vrais catéchistes, que les parents puissent être formés véritablement, qu'il y ait véritablement de centres de formation pour être formés. Qu'est-ce que j'appelle être formé? C'est pas seulement d'entendre un cours, c'est d'apprendre aux parents à transmettre à la maison, à réfléchir à la maison, à parler avec à leurs enfants à la maison sur tous les sujets, pas pour être professeur ni théologien, pour être papa et maman. La première église, c'est la maison. Qu'est-ce que dit le catéchisme de l'Église catholique? La catéchèse commence à la maison. Mais comment voulez-vous que la catéchèse commence à la maison si on forme pas le papa à être catéchiste, entre guillemets? Si on forme pas le papa à être catéchiste sur ces sujets-là et à discuter avec les enfants, à dialoguer, à argumenter. Et ça, l'Église peut le faire. Et si elle le fait pas, c'est elle qui est en tort. Ça, c'est pas l'extérieur. Ça, c'est pas l'extérieur. On peut on peut crier sur ce qui est fait à l'extérieur, mais il faut voir aussi ce qui est pas fait à l'intérieur de l'Église. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que j'en appelle encore une fois à tous les évêques, tous les curés, tous les prêtres, tous les gens qui vont aller manifester. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le 6 octobre. Est-ce que vous allez vous former? Est-ce que on va mettre en place des centres de formation, pas seulement pour prendre des cours, mais pour apprendre aux parents à transmettre à la maison, à réfléchir à la maison, à avoir une culture de livre à la maison, à ouvrir la Bible à la maison, à ouvrir le catéchisme catholique à la maison, à discuter, à voir ce que l'Église dit à la maison sur tous ces sujets, sur d'autres sujets, avec nos propres enfants? Voilà ce à quoi moi j'aspire, moi ce à quoi je projette. Parce qu'on va pas faire tout le temps la guerre contre l'État d'aujourd'hui. Et puis, entre parenthèses, je vous dis franchement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai jamais vu Jésus d'aller demander d'aller manifester contre le pouvoir romain. Et à l'époque, le pouvoir romain, non plus. D'accord? Il n'était pas très sympathique, que ça soit au niveau des humains, au niveau éthique, au niveau moral. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain juste après la manifestation pour tous? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour former les parents? Qu'est-ce qu'on met en place pour former véritablement les catéchistes? Qu'est-ce qu'on met en place véritablement pour faire un vrai programme dans les aumôneries et dans les catéchismes? Dans les catéchismes? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les évêques? Qu'est-ce que font les curés? C'est très important. Alors qu'on appelle à la mobilisation, moi j'entends bien le cardinal de Paris, mais moi c'est la première mobilisation dans laquelle j'appelle les évêques. à se recentrer sur l'essentiel aujourd'hui. On va pas faire tout le temps de la guerre contre l'extérieur. On va pas tout en faire la guerre contre l'extérieur. On doit armer les papas, les mamans par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ça, c'est un appel aussi très fort et donc à expliquer aux enfants. Parce que les enfants, encore une fois, ils vont aller dans les écoles de la République et ils vont être confrontés. Ils vont être confrontés. C'est avec la norme pour eux de rencontrer des enfants, peut-être de GPA ou de PMA. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Les enfants chrétiens qui vont être croyants, ils vont rencontrer ces enfants-là, ça va être la norme. Comment on va éduquer nos enfants par rapport aux autres enfants? Ça, c'est à réfléchir, ça c'est extrêmement important. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force de travailler véritablement ensemble, de prendre ça véritablement à cœur. Que chacun puisse œuvrer en fonction de ses qualités, mais de pouvoir construire véritablement et pas uniquement de dénoncer. Amen.